Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tant que je serai noire, c'est le podcast qui répond à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Tant que je serai noire, ce sont des récits de femmes qui nous parlent de leur désir ou non-désir d'enfant. C'est un podcast qui nous montre à quel point les récits des femmes interrogées sont aussi intéressants que les 1000 vies de Maya Angelou. Je suis Tsipora, la créatrice et productrice de « Tant que je serai noire ». Odo Mangone, enseignante-chercheure à l'université Charanta Diop de Dakar au Sénégal, elle est aussi derrière le hashtag « Balance ton goudronnier » lancé au Gabon et en 2021, elle a publié le livre « Femmes noires francophones, une réflexion sur le patriarcat et le racisme au XXe, XXIe siècle ». Odo est issue d'une fratrie de 5 enfants et elle est la seule fille. À 30 ans, elle perd son mari, et après son décès, devient veuve et mère d'une enfant qui allait avoir 2 ans. Elle-même issue d'un foyer non recomposé, ce n'est pas un schéma qu'elle envisageait, et surtout avec le temps, elle a compris que le modèle enfant et mari n'était pas fait pour elle. Odom, citoyenne gabonaise, espagnole de nationalité et sénégalaise d'adoption, assume aujourd'hui pleinement ce choix de non-désir d'enfant, et surtout de non-désir marital. Comment a-t-elle vécu la mort de son compagnon à l'âge de 30 ans? Comment ce choix est-il perçu au Sénégal, là où elle vit aujourd'hui? Pourquoi l'injonction à se marier et à enfanter nourrit le mythe de la femme africaine? Bonne écoute!
C'est en 2010 que je perds mon mari, donc j'avais 30 ans. Et à partir de ce moment-là, je me pose des questions que je n'aurais peut-être pas eu l'idée de problématiser lorsqu'on n'a que 30 ans, en fait. Donc, en l'occurrence, vivre le veuvage, lorsqu'on a encore quelque peu une sexualité active, et surtout se poser la question de savoir comment je vais devoir vivre au sein d'une famille qui va devenir monoparentale, parce que j'ai une fille, on a une fille qui se retrouve donc orpheline à peine 2 ans, en fait, elle n'avait pas encore 2 ans. Et donc, il y a plusieurs questions qui vont se poser, parmi lesquelles, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais avoir une nouvelle personne dans ma vie? Et au fil du temps, en fait, le hasard fait qu'à ce moment-là, j'étais en train de terminer ma thèse. Et donc, je me concentre. Du coup, un soir, je prends un calepin et je commence à noter les choses que je dois réaliser par ordre de priorité. Et donc, en l'occurrence, déjà, je mets au-dessus de tout, de toutes les priorités, ma fille. J'estime que, de façon peut-être caricaturale, hein, je me dis, ben, on peut perdre son mari, mais on peut refaire sa vie. C'est à ce moment que je le pense. Et je me dis qu'on ne peut pas avoir un nouveau papa, en fait, parce que je ne cherchais pas un père pour ma fille. Ma fille avait un père. Et donc... Je me rends compte au fil du temps, en fait, qu'il y a une nette différence entre vivre en situation de monoparentalité et refaire sa vie, en fait. C'est qu'on peut avoir une vie amoureuse qui n'a rien à voir avec la monoparentalité, parce que la monoparentalité, c'est la relation que tu as avec ta fille, l'engagement viscéral que tu as vis-à-vis de ta fille en tant que mère. Et la relation amoureuse, ça va être des personnes que tu peux rencontrer au fil du temps, mais avec lesquelles tu ne vas pas forcément établir ce trio entre toi, ta fille et ces personnes-là. Et donc, du coup, avec le temps aussi, je me rends compte que je ne suis pas vraiment tout à fait friande des familles recomposées, en fait. Je viens d'un système considéré traditionnel où mon père et ma mère sont toujours ensemble et où j'ai quand même vu autour de moi la complexité des relations qui se construisent en contexte, tout ce qui est autour de refaire, en fait, de recomposer une famille, en fait. Et du coup, je me rends compte que je ne suis vraiment pas du tout prête, ni préparée, ni motivée à vouloir trouver des espaces entre moi, ma fille et quelqu'un d'autre qui aurait peut-être aussi des enfants, en fait. Donc, du coup, je ne suis vraiment pas du tout partante là-dessus, même si l'environnement me pousse en me posant des questions. Quand est-ce que referas-tu ta vie? Est-ce que tu ne feras plus d'enfants? Avec un peu de, avec un œil critique et une distance émotionnelle, je me rends aussi compte, en fait, qu'on vit dans une société où on est plus préoccupé par la volonté de te voir cocher des cases que l'intérêt plus intimiste de savoir si tu vas bien, en fait. C'est que le deuil, je vois, en fait, que avant, je pouvais le voir avec un peu de distance, je ne savais pas, je vivais pas ça. Mais lorsqu'on perd un conjoint, en fait, il y a quand même une étape post-traumatique que l'on doit d'abord, dont on doit se guérir avant d'envisager une relation durable avec quiconque.
Odom décide de ne pas se remarier et de ne pas devenir mère. Mais quelle est la place de sa famille dans ce choix? Pour que sa fille ait tout de même une présence masculine dans sa vie, elle va faire un choix.
Donc, dans ma culture d'origine gabonaise, dans le nord du Gabon, il est dit en fait que l'enfant d'une sœur appartient aux frères, donc aux oncles maternels. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, pour ne pas justement qu'elle vive sans une référence masculine, disons, j'ai choisi parmi mes quatre frères un qui serait la figure paternelle dont elle aurait besoin le jour où elle voudra parler avec un homme qui fera figure de père, en fait. Évidemment, l'idée n'était pas de supplanter son père biologique. L'idée était tout simplement que le jour où elle aura besoin de parler avec une personne qui fera office de père, elle pourra donc, sans aucun souci, le contacter, parler avec, et ils ont nourri cette relation-là. Donc, l'idée d'avoir choisi un frère était aussi nourrie, alimentée, motivée par le besoin de ne pas vivre sur le qui-vive, en fait. C'est que si j'avais eu une relation avec quelqu'un et que cette relation aurait pris fin, j'aurais été très vexée, très personnellement et très troublée à l'idée que ma fille, entre-temps, aurait peut-être nourri une relation avec lui de complicité et que du coup, bah, quand il y a une relation qui prend fin, vous n'allez pas demander à cet homme de demeurer là pour jouer le jeu alors qu'il n'a plus entre nous rien à faire. Donc, j'ai choisi quelqu'un qui serait toujours là parce que mon frère en sera toujours un. Et donc, c'est comme ça que j'ai résolu cette question-là. Et tous les jours, je pense que ma fille, justement, le fait aujourd'hui que je décide, pas dans l'obstination, mais dans la conviction personnelle, que je dois aussi démontrer à la société, en fait, que la monoparentalité n'est pas une tare et que ça peut aussi être un choix. Et que parfois aussi, une personne qui vit dans ce contexte, en l'occurrence un enfant, peut grandir parfaitement sans se sentir mutilée, en fait, parce qu'il y a comme un discours qui tend à indexer comme si on avait fait quelque chose de mal. Parce qu'on ne choisit pas de l'être, on le devient. Donc, si on devient monoparental, parce que c'est une série de circonstances qui y conduit, en fait, il n'y a pas de raison qu'on cherche à vouloir coûte que coûte reproduire un mécanisme traditionnel, parce que la question de la tradition est un discours imposé, en fait. C'est que de quoi la norme conventionnelle est-elle la norme? Où fixe-t-on les paramètres de cette normalité-là pour déterminer, en fait, que un homme et une femme devraient former une famille pour être conventionnellement une famille normale? Donc, moi, je réfute tout ce qui est norme et qui ne s'ajuste pas aux inclusions, parce que il y a tellement de types de familles comme autant de personnes que l'on ne peut pas aujourd'hui m'en vouloir d'avoir perdu mon mari au point de me pousser à être avec un homme tout simplement pour cocher les cases. Donc, comme je refuse ce discours qui me l'impose, je ne peux pas reproduire un mécanisme qui tendrait à accepter ce que je refuse. C'est pourquoi j'ai choisi aussi, de façon politique aujourd'hui, de devenir ce que j'estime être une chef de famille monoparentale qui s'assume et qui est tout à fait bien dans ses bottes. Je pense que mes frères et mes parents, ils considèrent pratiquement qu'avec moi, il n'y a plus rien à faire. En fait, ils ont compris que, ben alors il va falloir la laisser tranquille. Ce qu'ils ont décidé finalement, c'est que bon, peut-être c'est parce qu'elle a vécu une bonne dizaine d'années à Madrid, donc elle est devenue, entre guillemets, un peu blanchie par la pensée. Peut-être aussi parce que, comme elle a décidé d'aller au fond de tout, peut-être le fait d'avoir lu tellement de livres a fait en sorte qu'elle ne soit plus, entre guillemets, tout à fait africaine. Et donc, ils ont compris que je suis dans ce tiers espace qui me situe quelque part, mais sans m'imposer des critères ou des façons d'être. Et puis aussi, cela fait quand même un bon nombre d'années que je ne vis plus avec eux. Donc, la distance aussi m'aide à prendre et à réaffirmer mes positions et à dire ce que je pense, parce que dans le quotidien, ils n'ont pas d'impact dans ma vie, en fait. C'est que nos échanges, même si j'y vais chaque année, ce sont des échanges sporadiques, ponctuels, qui font qu'au quotidien, ben, je suis à Dakar et à moins de prendre l'avion tous les jours, ils ne pourront jamais venir m'imposer une façon de vivre, en fait.
Dans la famille Dodon, il existe une féministe avant-gardiste qui lui permet aujourd'hui d'assumer son choix de vie. Mais qui est cette femme ?
Alors, l'une des leçons que j'ai apprises et que j'apprends chaque jour depuis que je suis revenue vivre sur le continent, c'est qu'il est très important de savoir ce que l'on veut, de s'écouter, mais aussi d'écouter les aspirations des autres. Donc, se dire peut-être que moi, aujourd'hui, je ne me vois pas dans l'idée de me remarier, je ne voudrais pas faire d'enfant, ne devrait pas faire en sorte que j'impose ma vision du monde à d'autres femmes qui ont d'autres ambitions, qui ne cadrent peut-être pas avec les miennes et qui sont tout aussi légitimes, en fait. Donc, la liberté de dire, la liberté d'agir, devrait s'aligner aussi aux libertés des autres tout en les respectant et en respectant la sienne. Alors, depuis que je suis venue sur le continent, je me suis aussi rendu compte, en fait, qu'on n'avait pas vraiment de grandes leçons de, entre guillemets, féminisme à donner à quiconque, en fait. Hein. Je suis souvent très admirative lorsque je vais dans des zones rurales et que je vais en vacances au Gabon, de remarquer qu'il y a vraiment des femmes qui ont une liberté de ton surprenante et qui n'a rien à voir avec des grandes théoriciennes qui auraient lu de grands livres. Voilà, et donc j'apprends d'ailleurs, je dis souvent, peut-être pour rigoler, mais vraiment de façon très convaincue, que ma grand-mère était féministe. La mère de ma mère était une grande féministe. Elle a décidé, dans un contexte rural de l'époque, de ne pas se marier. Ma grand-mère est décédée il y a même pas un an, c'est en juillet dernier, et elle est décédée, elle était célibataire. Et ma grand-mère en question n'a eu que ma mère comme enfant unique. Et finalement, on se dit, pourtant cette femme qui ne se laissait pas faire, n'a pas eu besoin de lire de grandes, n'a pas lu Bell Hooks, n'a pas lu Simone de Beauvoir, ne sait même pas que Virginia Woolf existe. Donc, je pense qu'on devrait peut-être nuancer lorsqu'on parle de théorie et de pratique. En fait, on peut être tout à fait bardé de théorie et ne rien avoir et ne savoir, ne pas bien comprendre la pratique féministe en contexte, en fait.
Le choix d'Odom est certes personnel, mais à travers son témoignage, on comprend vite que la société y porte un regard particulier.
C'est vrai qu'il y a des anecdotes subtiles parce que le visage de la domination est très subtil. Ce n'est pas forcément frontal. Ce n'est pas forcément des gens qui viendront vous parler vertement pour vous dire pourquoi vous n'êtes pas avec des gens. Ce sont des petites piques, en fait, des petites phrases subtiles, logées de façon inconsciente de la part des gens dans des contextes que vous estimez déplacés. Par exemple, lorsque j'ai publié le livre il y a 2 ans, enfin 2020, il y a un collègue, en fait, il ne me l'a jamais dit, mais c'est un collègue qui me l'a rapporté pour que vous voyez finalement que le milieu universitaire aussi fonctionne avec des ragots, des rumeurs. Et donc, la personne lui dit que j'ai publié un livre et lui de répondre, toute cette personne elle n'est même pas mariée, en fait, où est le rapport entre écrire un livre et être mariée, par exemple. C'est vraiment absurde, en fait. Mais... Et puis, il y a que lorsque j'arrivais, je devais me présenter un collègue. Et donc, je tends ma main, enfin, je tends. Il tend aussi réciproquement pour qu'on se salue. Et puis, il me dit « Madame ou mademoiselle ?» À ce moment-là, Attends, mais c'est une réflexion comme ça. Et je me dis « Mais... » Je suis sur le point de répondre, en fait. Et je me dis « Mais d'où il me pose cette question ?» En fait, il est bardé par... requinqué par la force que lui donne la puissance masculine face à une femme. Parce que dans le même contexte, je n'aurais jamais eu le courage de lui demander en fait ce qu'il me pose subtilement et que l'on ne retient jamais lorsqu'un homme vous dit « Mademoiselle ou Madame, ce qu'il veut savoir, c'est quel est votre état civil et c'est une information pertinente et personnelle, intime, qu'il n'a pas à vous poser dans un contexte professionnel. » Et donc, moi, je lui dis « Vous m'appellerez Odom, Madame Odom. » Et donc, ce jour-là, c'est une anecdote d'ailleurs que je raconte dans cet ouvrage, je me dis, il y a tellement de petites subtilités, de micro-agressions, de micro-machismes qui sont intégrées dans le langage ordinaire que l'on ne voit même plus en fait. Et donc, ce sont ces gens qui me donnent parfois le courage de continuer de tenir tête et de me dire, je ne peux pas continuer je ne vais pas faire autrement en fait, parce que ce que l'on veut me dire, c'est tu n'as pas encore coché toutes les cases, en fait. Il te manque une. Même lorsque tu as été marié et que ton mari est décédé pour des questions que tu ne vas pas maîtriser, on veut quand même encore que tu coches une case, en fait. Et ce sont des questions comme ça qui se répètent souvent subtilement. Et c'est parfois lorsqu'on ne te voit avec personne, où tu vas dans un resto où tu as l'habitude d'y aller, tu n'as pas à raconter ta vie à quiconque. Et puis, il y a la personne qui va t'accueillir et qui te connaît, qui va te servir et qui va demander comment va monsieur. En fait, c'est des questions très c'est des questions très déplacées en fait, mais d'où parle-t-il pour il parle en tant qu'homme en fait, c'est que et puis vous êtes dans la rue ou dans le coin de votre au coin de votre rue, des gens ne vous ont jamais vu avec un homme et il y a que vous êtes en tenue de sport. Celui qui est en train de, en fait, l'ouvrier qui travaille, il se permet de vous siffler, en fait. D'où parle-t-il? Il parle en tant qu'homme parce que vous n'êtes qu'un corps féminin, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, en fait. Et puis, il y a que, par exemple, le gardien de votre immeuble peut estimer qu'à 20 heures, il n'acceptera pas que cet homme qui est venu vous rendre visite et qui est un ami, parce que je peux recevoir qui je veux chez moi à l'heure qui me convient, il estime que non, il ne doit pas entrer chez vous sous le prétexte en fait implicite que lui, en tant que gardien, donc en tant qu'homme, il peut décider qui rentre chez vous et à quelle heure. Donc, ce sont vraiment des histoires comme ça que eux ils ne voient pas, que moi, en tant que femme, je vois. Parce que je sais qu'en temps normal, si j'avais été un homme, jamais il n'aurait eu l'audace de décider qui rentre chez moi à telle heure, par exemple. Donc, il y a tellement de choses. Et puis, il y a même des amis, des collègues qui me disent carrément, mais on leur a dit, si vous n'êtes pas marié, on ne vous louera pas une maison. C'est tellement de choses. C'est très choquant de voir ça, en fait. Donc, il y a une sorte de tutelle qui est toujours là. Et puis, autre petite anecdote, c'est que sur mon passeport gabonais, par exemple, je m'appelle telle veuve de. Cela veut dire que même étant mort, même lorsque je voudrais même continuer pour oublier ce traumatisme-là, l'administration applique une sorte de patriarcat administratif pour me rappeler que je suis sous la tutelle de mon mari, même décédé. En fait, ce sont des histoires tellement ridicules qui font en sorte que vous refusez finalement de devenir le corps de Madame Untel. Donc, c'est tellement de choses. Il y a peut-être des choix qu'on a opérés et qui font aujourd'hui en sorte qu'on se repositionne pour se poser la question de savoir, en fait. Donc, lorsqu'une femme décide de se marier, elle est sous la tutelle d'un homme et donc, ça devient une sorte de paravent de respectabilité, en fait. Lorsqu'on est simplement une femme, on ne sera jamais assez responsable ni assez respectée tant qu'on ne sera pas Madame Untel, en fait.
Et avant de nous laisser, j'ai voulu savoir si, en étant une vraie femme africaine, elle aurait eu moins de remarques.
Si toutes les subsahariennes de ma génération devaient passer un test d'authenticité pour bénéficier de la certification de qualité vraie femme africaine, 99,99% de femmes échoueraient d'office. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tombé dans un sacré piège. C'est que lorsqu'on est enfant, on vous vend le critère, en fait, on vous parle du mythe de la vraie femme africaine. Et la question banale que je poserai à toute personne qui m'écoute, c'est « Mais cette femme, où est-elle ? Où est son spécimen ? Sa biographie ? Où a-t-elle vécu ? À quelle époque a-t-elle fait, en fait, qu'on nous la présente ? On nous présente le mythe d'une femme vers laquelle on doit tendre sans nous dire qui est-elle, qui a vécu, où a-t-elle vécu. En fait, c'est une série de constructions. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'on est tombé dans un piège colonial. C'est que la vraie femme africaine est une construction réductionniste de ce que les corps autres, dont les catégories des corps colonisés, étaient supposés être des corps fixés dans le temps, immuables en fait. Et donc, du coup, on est tombé dans ce piège-là, vu que on est dans un contexte où l'amnésie collective nous rappelle que nous ne savons plus ce que nous étions avant l'arrivée de la colonisation, parce qu'il y a quand même eu un travail solide qui a concouru à ce que nous oublions une partie de notre identité. Et donc, en contexte d'amnésie collective, et comme nous avons quelque peu honte d'assumer que nous ne savons plus distinguer ce que l'on nous a imposé de ce que nous sommes et de ce que nous étions, on s'arrime à ce que nous avons à notre portée, dont les clichés hérités du colonialisme, en fait. Et c'est ce qui est très, très curieux, parce que lorsqu'on me parle de la vraie femme africaine, mais je me dis ce n'est pas possible, de façon vraiment triviale. Il ne peut pas avoir eu de vraie femme africaine en tant que modèle unique, pour une raison simple. Au sud du Sahara, il y a tellement de cultures, de peuples et d'épistémologies possibles. Comment et quand a-t-on pu construire le modèle d'une seule femme unanime qui soit, qui s'aligne à ce que nous étions en tant que pluralité culturelle? C'est tellement élémentaire de comprendre ça. Moi, ce que je dirais à toutes ces femmes, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là, le piège de la vraie femme africaine, parce que la vraie femme africaine n'existe pas, en fait. La vraie femme africaine est une invention coloniale que nous avons intériorisée en contexte de cécité structurelle, en contexte de amnésie collective, et que nous brandissons aujourd'hui sur le continent pour que les femmes baissent leurs critères, en fait. C'est que lorsque vous êtes contre le fait que l'on vous assigne des rôles, on vous dira que vous êtes une vraie femme africaine. Mais le jour où vous reproduisez un des éléments du cliché supposé vraie femme africaine, vous êtes encensé, vous êtes félicité, et lorsque vous n'êtes plus d'accord qu'on vous assigne des rôles, vous êtes la vraie femme africaine. En fait, c'est un piège, le piège des rôles, parce que la binarité, finalement, qui est incluse dans le système religieux, est justement établie sur cette base-là. L'un ou l'autre, en fait, c'est l'homme et la femme ont des rôles prédéfinis. Et voilà, et donc ce sont ces rôles que nous avons imposés. Pourtant, au sud du Sahara, il n'y a pas que les hommes et les femmes comme éléments de la nature. Il y a tellement de choses. Les éléments écologiques font partie prenante de notre vie aussi. Et donc, nous avons choisi d'adopter cette binarité qui a construit aussi finalement la fixité des rôles des corps autres durant la colonisation. Et puis, la vraie femme africaine est devenue le piège dans lequel nous tombons tous les jours. Hein, en fait, nous tous, on est convaincus qu'il y a forcément une authenticité identitaire quelque part, en fait, qui ferait que nous, on n'est pas des vraies femmes. Mais la vraie femme, elle n'existe pas, en fait. En complément, ce que je dirais pour reprendre le titre de ton podcast, c'est que tant que je serai noire, je ne retomberai plus dans les pièges des rôles binaires et je refuserai absolument de reproduire ou de m'aligner au prototype inconnu et introuvable de la vraie femme africaine, parce que nous sommes toutes vraies, voilà.
Merci à Odom pour cet épisode, merci à Aldric pour le montage et merci à vous, auditrices et auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode.